Chapitre 2. Hector Mancel. Allô, allô, la police judiciaire ?
Elle-même, répondit Hector Mancel, un jeune inspecteur dont la préoccupation était de passer quotidiennement dans les hôtels du 17e arrondissement pour relever les noms des nouveaux locataires.
Allô, allô, venez vite, Suzy Pommier vient d'être assassinée.
Cette nouvelle ne parut surprendre en rien le jeune inspecteur.
« Qui est à l'appareil ? »
demanda-t-il avec le plus grand calme.
« Elisa, la femme de chambre !»«
Je ne demande pas mieux que de venir, mais encore faudrait-il me donner l'adresse. »«
17 rue de l'Université !»«
Bien !»
Hector Mancel raccrocha. Tranquillement, il alluma une cigarette, prit son chapeau qu'il avait posé sur son bureau, à côté de l'appareil téléphonique, et, d'un pas alerte, sortit.
Il suivit un long couloir en sifflotant, s'arrêta devant une porte vitrée et frappa. Personne ne répondit. Après avoir frappé une seconde fois, il poussa la porte et pénétra dans une pièce meublée d'une manière confortable. C'était le bureau du commissaire Piget. Après avoir jeté un regard circulaire, Mancel ressortit et continua de suivre le long couloir. Lorsqu'il eut parcouru une dizaine de mètres, il s'arrêta devant une autre porte vitrée. Il frappa, on ne lui répondit pas davantage. Cette fois, il n'insista pas.
« Je vais y aller, murmura-t-il, puisque ni Piget ni de Martre ne sont là. »
Il descendit un autre escalier et pénétra dans une sorte de pièce qu'on eût pu assimiler à une salle de garde. Deux hommes y jouaient aux cartes.
« André, suis-moi, dit-il, et ne m'interroge pas. »
« Pourquoi ? » demanda le plus jeune.
« Un crime a été commis. Une artiste lyrique vient d'être assassinée, » précise Hector Mancel avec emphase.
« As-tu prévenu Piget ? » ?»«
Il est absent. »
« Et le service de l'identité judiciaire ?»«
Il est absent.
Pardon, je vais le faire tout de suite devant toi. » Prenant un appareil téléphonique qui se trouvait à portée de sa main, il s'acquitta de cette nécessité.
« Eh bien, maintenant, il faut y aller. Sans quoi, ils vont arriver avant nous et nous ne pourrons plus faire nos constatations. »
Le policier qui répondait au prénom d'André jeta ses cartes avec mauvaise humeur et, à regret, suivit le jeune inspecteur. Un quart d'heure plus tard, un taxi s'arrêtait devant l'immeuble portant le numéro 17 de la rue de l'Université. Hector Mancel et André Tabouret en descendirent et se frayèrent un passage à travers l'attroupement qui s'était déjà formé.
« Mazette ! » dit Mancel en apercevant tout ce monde, ainsi que la somptueuse maison où le crime avait été commis.
Car Hector Mancel, bien qu'il suivît avec intérêt le mouvement artistique et littéraire de son pays, n'avait jamais entendu parler de Suzy Pommier. Dans son esprit, comme dans celui de son collègue, il s'agissait du meurtre banal d'une fille se disant, par besoin de considération, artiste. Aussi avait-il eu soudain le pressentiment qu'il s'agissait d'une affaire autrement importante.
« Est-ce que tu connais ce nom-là, toi, Suzy Pommier ? » demanda-t-il.
« Je ne l'ai jamais entendu. Pourtant, je suis un amateur de théâtre. Je connais Sarah Bernard, Réjeanne, Simone... mais je puis assurer que je n'ai jamais entendu parler de Suzy Pommier.
Je suis en train de me demander si on ne ferait pas mieux de prévenir Piget, continua Hector Mancel, inquiet.
Qu'est-ce qu'on va prendre ? Il va croire qu'on a voulu lui souffler cette affaire.
Mais le jeune inspecteur n'en eut pas le temps. Le groupe de curieux, de voisins, venait de s'écarter respectueusement, comme lorsqu'un grand homme va mourir devant les médecins venant en consultation.
« Il faut y aller !» murmura Mancel à son collaborateur qui, afin de ne pas passer le premier, faisait semblant de regarder le trottoir comme s'il avait perdu quelque objet. À ce moment, un vieil homme échevelé, mis modestement, ayant toutes les apparences d'un petit fonctionnaire, se précipita au-devant d'eux.
« Les inspecteurs ! Les inspecteurs ! » interrogea-t-il d'une voix anxieuse.
« Eux-mêmes !» répondit Hector Mancel.
« Venez vite, je vous en supplie, si vous saviez quelle chose affreuse ! Mon Dieu, quelle horreur !»
« Qui êtes-vous ? » demanda froidement Mansel tout en marchant.
« Le père, monsieur, le père de Suzy Pommier !»
La porte de l'appartement de l'artiste se trouvait à gauche, dans le grand hall de l'immeuble, si bien qu'on pouvait entrer et sortir de chez elle sans avoir besoin de passer devant la loge des concierges. Des locataires de la maison, des fournisseurs parlaient avec animation de ce crime étrange. Devant la porte de l'appartement, deux sergents de ville montaient la garde. Hector Mansel leur fit un signe. Tout de suite, ils s'écartèrent. « Quelqu'un est-il entré dans l'appartement ? » À part la femme de chambre qui, en prenant son service, a découvert le corps de sa maîtresse, demanda Hector Mansel en examinant la serrure de la porte.
« Moi, monsieur, répondit un homme qui avait l'aspect d'un lad vieilli.
« Pour quelle raison ?»«
Je suis le concierge, monsieur. Lorsque la femme de chambre affolée est venue me trouver, je me suis rendu avec elle sur le lieu du crime pour m'assurer que mademoiselle Pommier était bien morte.
« Comment vous appelez-vous ? »
« Antoine, monsieur. »«
Il faut me dire votre nom de famille, » précisa Hector Mansel tout en continuant d'examiner la porte d'entrée.
« Jobert. »«
C'est bien, ne vous éloignez pas. J'aurai certainement besoin de vous. »«
Eh bien, maintenant, André, allons-y. »
La clé était sur la serrure. L'inspecteur la tourna et ils pénétrèrent dans l'appartement. Mais tout de suite, ils s'arrêtèrent.
« Vous êtes la femme de chambre de mademoiselle Pommier ?» demanda Hector Mansel à une petite brunette en tablier blanc qui se trouvait près de lui.
« Oui, monsieur. »«
Est-ce que vous couchez dans l'appartement ?»«
Non, monsieur. Ma chambre est au 6e. »«
Est-ce vous qui avez allumé le lustre ?»
La femme de chambre hésita une seconde, puis répondit.
« Non, monsieur. Il était allumé ce matin quand je suis descendue. »
« Vous ne vous êtes pas dit que votre maîtresse avait oublié de l'éteindre ?»«
Si, monsieur. »«
Comment se fait-il, dans ce cas, que vous ne l'ayez pas éteint ?»«
Je ne sais pas, »
répondit la domestique en se troublant.
« Vous aviez sans doute l'intention de mettre de l'ordre dans cette entrée ?»«
Oui, monsieur. »«
Veuillez me conduire dans votre cuisine. »
Tremblante de peur, la domestique obéit.
« Ceci est la porte de l'escalier de service, n'est-ce pas ?» demanda l'inspecteur.
« Oui, monsieur. »
Hector Mansel semblait se soucier fort peu de la jeune fille. Il regardait les murs autour de lui, paraissant chercher quelque chose.
« J'ai l'impression, dit-il, que mademoiselle Pommier était une excellente maîtresse de maison. Ne vous avait-elle pas fait un emploi de votre temps ?»«
Si, monsieur, il est dans l'office. »
L'inspecteur le parcourut, puis se tourna vers la femme de chambre.
« Aujourd'hui, mercredi, il n'est pas question de l'antichambre. Vous deviez, en descendant, faire la salle à manger. »
Sans attendre de réponse, il revint sur ses pas. Après avoir encore longuement examiné l'entrée, il entra dans le salon. Les volets étaient fermés. Pourtant, il y faisait très clair. Sans s'attarder, il pénétra dans la chambre à coucher. Un désordre qui, à première vue, n'avait rien d'extraordinaire, régnait dans la pièce. Le lit était défait. Des vêtements jonchaient le sol. Il s'avança ensuite vers la salle de bain, dont on apercevait un lavabo par la porte entr'ouverte. Un spectacle horrible s'offrit alors à ses yeux. Suzy Pommier gisait, morte, dans sa baignoire. La tête à demi cachée sous l'eau, les genoux relevés comme ceux d'un enfant qui vient de naître, les traits déformés par la douleur, les bras tordus, absolument nus, on ne pouvait la regarder sans frémir.
« C'est pénible !» murmura l'inspecteur en allumant une cigarette et en secouant à 3 ou 4 reprises l'allumette pour l'éteindre.
Il appela la femme de chambre.
« Est-ce que votre maîtresse avait l'habitude de prendre un bain le soir avant de se coucher ?»«
Oui, monsieur. »«
Est-ce vous qui avez préparé ce bain ?»
« Non, monsieur. Madame m'avait donné 2 places pour la présentation de son film et, supposant que je ne serais pas seule, elle m'avait dispensé de revenir. »«
Avez-vous été à cette représentation ?»«
Non, monsieur. »«
Vous avez un fiancé, sans doute. »«
Comment le savez-vous ?»« En effet, monsieur. »«
C'est bon, vous pouvez vous retirer. »
En dehors du cadavre, rien n'indiquait qu'un drame s'était déroulé quelques heures auparavant. Tout semblait à sa place. Nulle part il n'y avait d'éclaboussure. L'eau, unie, immobile, couvrait le corps de l'artiste. Un peu de la tête, un genou et une partie de la jambe seule émergeaient. Après avoir longuement examiné chaque objet, le jeune inspecteur revint dans la chambre à coucher. Un châle reposait sur le dossier d'une chaise. Il le prit, le palpa avec soin. Un coin de ce châle était mouillé. « Curieux, » murmura-t-il. Continuant ses recherches, il se pencha, regarda sous le lit. Toujours rien de particulier ne s'offrit à sa vue. Brusquement, il s'arrêta devant un petit secrétaire. Un tiroir était à demi ouvert. Il en examina le contenu. Des factures, des programmes, en un mot, seuls des papiers sans intérêt s'y trouvaient. Il interrogea de nouveau la femme de chambre. « Ce tiroir était-il ordinairement fermé à clé ?»«
Oui, monsieur, madame avait l'habitude de tout fermer. »
« Et elle emportait toutes les clés ?»«
Non, monsieur, elle les mettait dans ce petit tiroir entrouvert dont elle emportait la clé qui est la plus petite. »
L'inspecteur regarda autour de lui. Dans chaque serrure, il y avait une clé. La jeune femme, en entrant, les avait donc remises à leur place. Une seule manquait, celle du petit tiroir qui les contenait toutes. Délaissant le secrétaire, il s'approcha du lit. Il était défait, pourtant il était visible que personne ne s'y était couché. À sa tête, sur une table de chevet, se trouvait un cendrier. L'inspecteur l'examina. Il ne contenait ni cendre ni allumette, mais quatre minuscules boulettes de papier. Il les déplia. C'étaient quatre timbres de 5 centimes. Il les contempla avec attention et, finalement, les glissa dans son gousset. « Mademoiselle, interrogea-t-il, où est l'encre ?»«
Ici, monsieur. »
Il prit l'encrier que venait de lui désigner la femme de chambre et, tirant une allumette de sa poche, la trempa dans le liquide. Avec précaution, il se rendit dans la salle de bain, approcha l'allumette du genou de la victime et, juste au-dessus du niveau de l'eau, fit une petite marque. Puis, jetant l'allumette, il revint dans la chambre à coucher. « Maintenant, dit-il à haute voix, il ne nous reste plus qu'à attendre un petit quart d'heure. » Il alluma une autre cigarette et s'assit dans un fauteuil. « Mademoiselle, voulez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas éteint la lumière du vestibule en venant prendre votre service ce matin ?» De nouveau, la femme de chambre se troubla. « Voulez-vous que je vous le dise, moi ?»«
Oh oui, monsieur !» répondit la domestique.
« Vous n'y avez pas pensé ?»
« Mais oui, monsieur, mais oui, c'est cela !»
s'exclama joyeusement la femme de chambre. « Eh bien, maintenant, allez dire à mon collaborateur de venir, mais d'abord, donnez-moi le sac de votre maîtresse qui est là, par terre, près de vous. » Lorsque Tabouret entra dans la chambre à coucher, il trouva Mansel plongé dans la lecture d'un petit agenda. « Ah, te voilà! Écoute un peu. 1er mai, thé avec la princesse. 2. Thé avec la même. 3. Pierre, 8 heures. 4. Pierre. 5. Studio, Pierre. 6. Dîner, Edmond au cours. Pierre, minuit. 7. Pierre. Et hier, veille du crime, rien. De ton côté, as-tu remarqué ou entendu quelque chose d'intéressant ?
Non.
Regarde ce petit tiroir entrouvert. La clé n'est plus dans le sac. Par contre, Hector Mansel fut interrompu par le bruit d'une automobile s'arrêtant juste devant l'immeuble. « L'identité judiciaire » murmura-t-il. En effet, une minute plus tard, une dizaine d'hommes faisaient irruption dans la pièce. Parmi eux se trouvaient deux photographes. Peu après, arrivait également le médecin légiste. Comme il s'apprêtait, cependant que l'identité judiciaire relevait partout des empreintes, à examiner le cadavre de Suzy Pommier, Hector Mansel dit, en levant l'index en signe de prudence, « Une seconde, je vous prie, j'ai besoin de m'assurer que mon expérience a réussi. » Il retourna dans la salle de bain, jeta un coup d'œil sur le cadavre, à l'endroit où il avait tracé un trait à l'encre, puis revint en souriant. « Vous êtes libre, docteur. Quant à mon expérience, elle est réussie. »«
Quelle expérience ?» lui demanda Tabouret. Tu le sauras plus tard. Pour le moment, filons. Nous n'avons pas une minute à perdre, sans quoi l'oiseau sera envolé. Si nous n'arrêtons pas l'assassin avant 3 jours, il sera trop tard.
Pourquoi donc ?
Il sera trop tard, je te le dis. D'abord, Piget prendra l'affaire en main et nous enverra relever le nom des voyageurs dans les hôtels. Ensuite, il ne trouvera rien.
Mais as-tu des soupçons ?
Cela me regarde.
Alors,
quand j'aurai interrogé le dénommé Pierre et tous les familiers de la victime, je ne serai pas loin du but.
Et Pierre, sais-tu qui est-ce ?
Mansell eut un geste plein d'assurance. Puis il murmura finement
« J'ai gardé le carnet !»
Sur ces mots, ils sortirent. Mais au moment de héler un taxi, Hector Mansell se ravisa.
« Attends-moi dehors, garde le taxi, je viens de penser à quelque chose. »
Il revint sur ses pas.
« Personne n'a vu le concierge » demanda-t-il aux curieux qui se pressaient dans le hall de l'immeuble.
« Il est là !» fit un monsieur décoré de la Légion d'honneur en oubliant, dans une telle circonstance, de ne pas se servir de son index pour montrer un de ses semblables. Hector Mansell s'approcha du concierge et, sans prononcer un mot, l'entraîna à l'écart.
« C'est bien Jobert, votre nom ?»«
Oui, monsieur. »«
Pouvez-vous me dire à quoi vous avez employé votre soirée d'hier ?»«
Oui, monsieur. J'ai assisté à la représentation du film de cette pauvre mademoiselle Paumier. »
« Ah, si vous saviez comme elle avait bon cœur, et pas fière, elle au moins, et toujours un mot gentil pour tout le monde. »«
À quelle heure êtes-vous rentrée ?»«
Vers minuit. » »«
Mademoiselle Paumier était-elle déjà chez elle ?»«
Oui, elle était rentrée, ma femme lui avait ouvert. » »«
Était-elle seule ?»«
Cela, nous ne pouvons pas vous le dire. » »«
Est-ce que de votre loge on entend couler un bain ?»«
Oui, monsieur. »
« Avez-vous entendu quelque chose ?»«
Nous n'avons pas fait attention. »«
Dites-moi, y a-t-il dans votre maison un locataire qui rentre habituellement tard ?»«
Oui, il y a M. Xavier Pimpol qui travaille dans les journaux. »
Peu après, Hector Mansell avait appris par M. Xavier Pimpol qu'à 4 heures du matin, en passant devant l'appartement de Suzy Paumier, il n'avait rien remarqué de particulier.
« Vous n'ignorez pas, répliqua Hector Mansell, qu'au-dessus de la porte de l'appartement de Mademoiselle Paumier, il y a une sorte d'œil de bœuf et que, si l'antichambre est éclairée, on s'en aperçoit de l'extérieur. »«
Je le sais, répondit le journaliste. Souvent, cette lumière m'aida à trouver la minuterie. Mais cette nuit, j'ai dû me servir de mon briquet. Je m'en souviens très nettement. »«
C'est bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci, monsieur. »
Sur ces mots, l'inspecteur prit congé.